un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons. Je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 24 novembre et il est 11h30 dans les studios de Radio Libre en Périgord. Alors, voici cette chronique du groupe Fred Zeller dans laquelle je vous propose de parler des 120 ans de la loi de 1905. Mais auparavant, je voudrais indiquer que samedi 29 novembre se tient à Paris une manifestation pour la défense du peuple palestinien et des droits du peuple palestinien et qu'est organisée localement à Périgueux un rassemblement manifestation à 11h et le rendez-vous est devant le palais de justice de Périgueux comme à l'habitude. Donc pour la défense du peuple palestinien, pour les droits du peuple palestinien, et je dirais à commencer par le droit que les Palestiniens ont formulé dès la partition de la Palestine, à savoir le droit au retour. Donc tous, samedi 29 novembre, 11h, devant le palais de justice de Périgueux, et pour ceux qui le peuvent, à Paris, pour répondre donc à cet appel national, international, puisque c'est une journée internationale pour la défense des droits du peuple palestinien. Alors, je reviens donc au sujet du jour, laïcité, les 120 ans de la loi de 1905. Et je vais vous proposer, comme élément de réflexion à quelques jours maintenant de cet anniversaire, je vous propose de vous lire un texte de Jean Bobéro. Jean Bobéro, bon, je le rappelle, qui est considéré comme l'historien de la laïcité, puisqu'il est professeur émérite de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité à l'École pratique des hautes études en sciences sociales, auteur notamment de deux que sais-je, Histoire de la laïcité en France et les laïcités dans le monde, et également de Laïcité sans frontières, donc édition Le Seuil, les sept laïcités, la loi de 1905 n'aura pas lieu. Voilà, donc à quelques-uns des ouvrages de Jean Bobéro. Alors, Jean Bobéro, donc, je vous dis, a fait une communication devant le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, dans lequel il revient sur les éléments qui sont apparus avant le vote de la loi de 1905 et dans les premières années de son application. Et j'ai trouvé qu'il y avait des éléments dont on n'a pas souvent parlé à ce micro. Donc, je pense qu'autant laisser parler Jean Bobéro. Donc, il précise d'abord, Jean Bobéro, Vincent, « Je vais d'abord, dit-il, revenir sur le contexte de l'époque, puis aborder les enjeux à proprement parler. Enfin, je tenterai, dit Jean Bobéro, de donner une brève conclusion comportant quelques éléments d'actualisation. On peut aborder le contexte de deux manières. D'abord, envisager le contexte dans la longue durée. Le XIXe siècle est marqué non seulement par la ratification en 1802 d'un concordat entre l'État français et Rome élaboré l'année précédente, mais également, on l'oublie trop souvent, par une organisation religieuse pluraliste autour d'un régime juridique de, entre guillemets, « culte reconnu ». Lorsque l'article 2 de la loi de 1905 affirme que, citation, « la République ne reconnaît aucun culte », il s'agit d'un terme technique. Cela signifie que l'on met fin au régime des cultes reconnus, incluant le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme. Cependant, cette tentative de pluralisme juridique a été politiquement surdéterminée parce que les historiens appellent le conflit des deux Frances, entre guillemets. Ce conflit oppose, pour faire simple, une France traditionnelle, séculaire, entre guillemets, fille aînée de l'Église, catholique, et une France moderne, héritière de la Révolution française, celle de 1789, bien sûr, mais aussi des années suivantes, 1793, 1794, marquée par un combat anti-religieux, et 1795, où alors eut lieu une première tentative de séparation qui n'a pas duré. Ce qui importe pour nous, c'est que ce conflit politico-religieux génère une instabilité politique. Le XIXe siècle voit se succéder sept régimes politiques différents, avec une durée de vie moyenne d'environ 15 à 20 ans chacun. Lorsque la République, la troisième, parvient à se stabiliser, à la fin des années 1870 et au début des années 1880, le grand enjeu pour les républicains de gouvernement, consiste à en faire le régime définitif de la France, objectif qui suppose de surmonter le risque de retour monarchique ou bonapartiste et aussi d'éviter l'émeute populaire, souvenons-nous de la Commune. Pour faire de la République le régime définitif de la France, il faut résoudre le conflit des deux France, et donc la question du rôle politique du catholicisme. Dans les années 1880, la solution retenue par les républicains est ce que j'appelle un anticléricalisme libéral. On impose la liberté aux religions, en particulier au catholicisme. Un exemple emblématique de cet anticléricalisme libéral est la loi rétablissant le droit au divorce en 1884. Les catholiques l'aperçoivent comme une loi persécutrice parce qu'elle heurte leur conception de la famille. En réalité, elle ne contraint personne à divorcer. Elle permet aux protestants et aux juifs, qui tolèrent le divorce, d'exercer ce droit, si besoin, et aux libres penseurs d'en faire usage. Quant aux catholiques, ils sont libres d'obéir ou non à l'interdiction de l'Église catholique. Cela relève désormais d'une adhésion volontaire. On connaît mieux la loi sur la laïcité dans l'école publique, loi Ferry de 1882, mais sont également votées d'autres lois, telles celles sur la liberté des funérailles ou celles sur la neutralité des cimetières, mettant fin à la division entre guillemets, terre bénite et terre maudite. Cet anticléricalisme libéral ne diminue pas la liberté religieuse, mais il établit la liberté face aux normes de la religion, en distinguant loi civile et normes religieuses, ce qui aurait dû être le cas depuis la Révolution française, mais qui n'était pas vraiment dans les faits. Ainsi, le divorce autorisé en 1792 fut interdit en 1816. Voyons ensuite, poursuit Jean Bobéro, le contexte plus immédiat, celui du tournant du siècle. En 1892, le pape Léon XIII appelle les catholiques à se rallier à la République. Ce ralliement est souvent présenté comme un apaisement du conflit entre les deux France. En réalité, rapidement, c'est tout le contraire. Le ralliement est conditionnel. Il vise à changer la République de l'intérieur. Le catholicisme apparaît alors encore plus menaçant et le ralliement ravive les peurs républicaines. La Croix, par exemple, se déclare, citation, « le plus anti-juif de France ». Le journal La Croix. C'est donc dans ce contexte que survient l'affaire Dreyfus. Les catholiques ralliés cessent de dénoncer globalement la République. Il distingue la gueuse et une république des honnêtes gens, opposée à celle qui se trouverait accaparée par les francs-maçons, les juifs et les protestants. Dans cette conjoncture de tensions croissantes, les gouvernements successifs de défense républicaine, de Valdec-Rousseau, puis le Bloc des Gauches, sous la direction d'Émile Combes, adoptent une posture que l'on peut qualifier d'anticléricalisme autoritaire. Une lutte est ainsi menée contre les puissantes congrégations enseignantes et, en outre, sous le ministère Combes, les relations avec le Saint-Siège se détériorent fortement. Émile Combes souhaite en effet un concordat renforcé, ce qui ne fait qu'aggraver les tensions, d'autant plus que Léon XIII, relativement souple, meurt et laisse la place à Pie X. Traditionnellement, on considère que le processus de séparation des Églises et de l'État a été initié par Émile Combes. Celui-ci prend parti pour la séparation en septembre 1904, dépose un projet de loi en novembre, puis quitte le pouvoir en janvier 1905, transmettant, dit-on, le relais à Aristide Briand. À mon sens, dit Jean Bobéro, cette lecture des événements est beaucoup trop simpliste. En réalité, dès 1903, un véritable conflit oppose deux visions de la laïcité. Les partisans de l'anticléricalisme d'État autoritaire ne sont pas opposés à la séparation sur le fond, mais considèrent que les conditions ne sont pas encore réunies. Ils estiment qu'il faut d'abord instaurer un véritable monopole de l'enseignement public avant d'envisager la séparation. Tant que subsiste la liberté d'enseignement, l'école n'est pas laïque, gratuite et obligatoire. Il faudra donc attendre qu'une génération nouvelle soit éduquée exclusivement par l'école laïque pour se poser la question de la séparation, sinon enlever la possibilité d'un contrôle de l'État sur l'Église catholique apparaît trop dangereux. Donc ça est la position donc, des partisans de l'anticléricalisme d'État autoritaire. Mais le désir de supprimer la liberté de l'enseignement crée une fracture au sein même du camp républicain et laïque. Clémenceau, par exemple, s'oppose fermement à l'idée de monopole. Il affirme que s'il faut choisir entre la République et la liberté, il choisira toujours la liberté. D'autre part, au sein du Parlement, une commission sur la séparation est constituée en juin 1903, réunissant 17 députés séparatistes et 16 député concordataire issu du centre et de la droite. Vu l'abstention de certains députés de gauche souhaitant différer la séparation, l'opposition a fait jeu égal avec la majorité. Beaucoup pensent que la commission va être paralysée. En fait, elle travaille dans un tout autre esprit que le bloc des gauches. Si les affrontements sont presque un rituel au Parlement, cette commission, présidée par Ferdinand Buisson, ancien adjoint de Ferry et dont le rapporteur de la commission, est Aristide Briand. Et cette commission opère des transactions pour élaborer un projet à peu près consensuel. Ce conflit des deux laïcités aboutit à une crise entre le projet de la commission, prêt dès juillet 1904, et Combes, qui choisit de déposer un projet différent en novembre dans une logique d'hostilité vis-à-vis de la commission et visant plutôt à une certaine séparation entre l'Église catholique en France et Rome qu'à la séparation des Églises et de l'État. Finalement, c'est le couple Buisson-Briand qui l'emporte et c'est le projet un peu modifié de la commission qui est soumis au Parlement en mars 1905. Ce point est fondamental. Sinon, on ne comprend pas pourquoi la séparation de 1905 n'est pas le couronnement de l'anticléricalisme d'État autoritaire, mais au contraire, un retour au principe de l'anticléricalisme libéral des années 1880. Les premières années du XXe siècle ont fait face à un dilemme. Chaque mesure anticléricale prise se révèle inefficace. Chaque échec pousse à adopter une mesure plus dure encore, dans une spirale idéologique inflationniste. Au final, les libertés démocratiques sont écornées. On atteint un point où il faut choisir, soit on s'éloigne des principes d'une république libérale démocratique, soit on change de stratégie. C'est un véritable dilemme au sein du camp républicain. Initialement, l'optique de la commission est minoritaire. Progressivement, toutefois, l'environnement évolue. Combes défendait l'idée qu'on pouvait aller jusqu'à une quasi-guerre civile entre Français, car l'horizon international était pacifique. Mais en février 1904 éclate la guerre russo-japonaise. Elle concerne la France à cause de sa colonie indo-chinoise et surtout de l'alliance franco-russe. Progressivement, les défaites russes dégagent le front est de l'Allemagne qui redevient dangereuse. L'argument, visant à mener à son terme un combat laïque, quoi qu'il en coûte, perd de son impact. Il faut au contraire éviter de maximaliser le conflit entre Français. Cet aspect, non souligné par les historiens, me paraît crucial, indique donc Jean Bobéro. Et il poursuit. D'autre part, le choix de l'anticléricalisme autoritaire s'est fait au détriment de la question sociale. Sous le gouvernement du bloc des gauches, les résultats sociaux sont très faibles. Ainsi, les retraites ouvrières sont sans cesse ajournées en raison de la priorité donnée à l'anticléricalisme d'État. Ainsi, à partir de l'été 1904, Jean Jaurès souhaite une séparation libérale qui, autant que faire se peut, pacifiera le conflit des deux Frances et permettra d'affronter enfin la question sociale, là où la France accuse du retard sur l'Allemagne. Le contexte étant posé, Jean Bobéro indique « J'aborderai les enjeux de la loi elle-même. Trois enjeux me semblent décisifs, un quatrième concernant l'application de la loi. » Le premier enjeu s'articule autour de l'interprétation de la notion de liberté de conscience. Personne n'est contre, mais la gauche républicaine en donne trois interprétations différentes. L'interprétation la plus extrême considère que la liberté de conscience n'inclut pas la liberté religieuse. Selon cette vision, la religion est, par essence, une oppression des consciences. Il faut donc émanciper les individus de la religion, promouvoir la primauté de la raison sur la croyance et, dans cette logique, accorder le moins de liberté possible aux expressions religieuses. C'est la conception de Maurice Allard, d'Édouard Vaillant, des socialistes révolutionnaires et d'une petite minorité des radicaux socialistes. Émile Combes prône, quant à lui, une autre conception. Il n'est pas anti-religieux et se veut un philosophe spiritualiste. Il affirme, dans des conversations privées avec le chef de cabinet du président de la République, que son objectif consiste à réconcilier la République et l'Église catholique. Pour y parvenir, il faut républicaniser le catholicisme, y compris de manière autoritaire, avec des mesures répressives. En réalité, nous l'avons vu, Combes cherche surtout à séparer l'Église catholique française de Rome, davantage qu'à séparer les Églises de l'État. Bien des radicaux et radicaux socialistes, sans être tout à fait de cet avis, veulent profiter de l'occasion pour développer un « catholicisme républicain », entre guillemets, évidemment. Briand défend avec beaucoup de ténacité une troisième conception. On dit souvent qu'il était plus habile que convaincu. Mais en l'occurrence, sur la liberté de conscience, il a vraiment fait preuve de constance. Chaque fois qu'on enlevait de la loi ce principe de la liberté de conscience, il le remettait en tête de l'article 1er, en le faisant suivre du « libre exercice des cultes ». Attention, il s'agit bien du « libre exercice des cultes » au pluriel, et pas seulement de l'exercice du culte. Briand le rappelle à plusieurs reprises. Le mot « culte » en droit désigne la religion depuis la Révolution, ce qui inclut, précise-t-il, les manifestations extérieures du culte, pas seulement l'acte cultuel lui-même. Un exemple. La loi de 1905, contrairement à la première séparation de 1795, permet le port de la soutane dans l'espace public. Briand l'affirme. La soutane devient avec la séparation un vêtement comme un autre. S'ensuit une banalisation du vêtement religieux. Par ailleurs, la liberté des processions est accrue par rapport au régime des cultes reconnus. Après 1905, cette liberté de procession est plus grande en France qu'en Alsace-Lorraine, alors devenue allemande, où le système bonapartiste s'applique toujours. Donc la liberté de conscience est donc la liberté de manifester ses convictions, qu'elles soient religieuses ou irreligieuses, dans le cadre démocratique, avec l'existence d'une police des cultes prévenant les troubles à un ordre public démocratique. En 2021, certains ont affirmé qu'il n'y avait pas de police des cultes dans la loi de 1905. C'est faux. Elle existe. Peut-être faudrait-il simplement l'appliquer. C'est un débat. C'est donc cette conception, celle d'Aristide Briand, cette conception inclusive de la liberté de conscience qui l'emporte et inclut le libre exercice des cultes, article 1 de la loi de 1905. Deuxième enjeu, donc, indique Jean Bobéro. L'article 2 de la loi 1905 met fin au système des cultes reconnus. La République ne reconnaît, ne finance, ni ne subventionne aucun culte. Toutefois, à la fin de cet article figure une exception. Les aumôneries dans les lieux fermés peuvent bénéficier de fonds publics. Il est bien précisé que cette exception vise à pouvoir assurer le libre exercice des cultes. Autrement dit, l'article 2 reconnaît la primauté de l'article 1, la liberté de conscience. Si une tension existe entre la liberté des cultes et le non-financement, c'est le non-financement qui doit s'assouplir. Clémenceau, notamment, est très clair sur ce point. Se pose troisième enjeu, le problème de la neutralité. Là encore, il s'agit d'un débat complexe avec plus de 40 000 édifices religieux, propriétés publiques, attribués à de futures associations cultuelles et des biens, 400 millions de francs or, liés à ces édifices. Ces derniers étaient jusqu'alors gérés par des représentants des églises, mais aussi de l'État. Certains à gauche veulent en récupérer une partie. D'autres, plus libéraux, estiment que ces biens doivent revenir entièrement aux associations cultuelles. Cette position l'emporte. Mais un nouveau conflit éclate entre les républicains de gauche. En effet, un ajout de l'article 4 précise « Les biens reviendront aux associations qui se conformeront aux règles générales d'organisation de leur culte. » Ce point est crucial, car derrière une formulation technique, cela signifie que les associations cultuelles catholiques doivent être conformes à leur hiérarchie religieuse. Le prêtre de l'association doit se trouver en conformité avec l'évêque et l'évêque avec le pape. C'est la fin de l'espoir des radicaux de promouvoir un catholicisme républicain qui serait « schismatique » entre guillemets, par rapport à Rome. Il y a eu un conflit intra-républicain virulent allant de l'adoption, par la droite et une partie seulement de la gauche, de cet ajout à l'article 4 jusqu'au dépôt par les républicains de gauche battus d'un article 6 bis qui aurait tempéré les conséquences de cet ajout. Pendant un mois et demi, une part de la gauche, essentiellement des radicaux qui ont une conception individualiste de la liberté de conscience, alors que les socialistes jaurésiens intègrent une dimension collective, tentent de faire reconnaître que, même si le dogme doit être respecté, la discipline, l'obéissance hiérarchique, ne doit pas être obligatoire pour disposer des églises et hériter des biens. C'est un échec total. L'article 6 bis est rejeté par l'action conjointe de Jaurès et de Briand, mettant fin à l'idée d'un catholicisme républicain autonome. C'est une neutralité qu'on qualifie alors dans les débats de « respectueuse ». Respectueuse des différentes constitutions ecclésiastiques, ce mot « respect » est d'ailleurs repris dans la Constitution de 1958, « La République respecte toutes les croyances ». Il y a enfin l'enjeu de l'application de la loi, par l'encyclique « Gravissimo », Pie X refuse la loi qui met fin au concordat et dont un pape était consignataire. Mais on l'ignore souvent, ce refus a été suivi de trois autres entre décembre 1906 et mai 1908. Le pape rejette toutes les solutions alternatives de droit commun que Briand propose et fait voter par la gauche du Parlement. Cela ne se fait pas sans mal. Une partie de cette gauche républicaine renocle face à cette humiliation devant Rome. On parle d'aller à Canossa. Briand, soutenu par Buisson pendant la préparation de la loi et par Jaurès au moment de son élaboration, est soutenu alors par Clémenceau, devenu ministre de l'Intérieur puis président du Conseil. C'est le couple Briand-Clémenceau qui l'emporte. Briand invente des solutions libérales, Clémenceau les impose à toute la gauche. De fait, la gauche qui a voté en 1905 une loi loin de correspondre aux aspirations de certains de ses membres vote également de façon unanime trois autres lois permettant d'appliquer la séparation. Ainsi, on en arrive à la formulation de « l'Église catholique légale malgré elle ». Cette dernière refuse en effet les propositions juridiques qui lui sont faites, notamment celle de l'association de 1901. C'est pour permettre aux catholiques de contourner la loi de 1905 qui est autorisée par une nouvelle loi de 1907, la gestion cultuelle via des associations loi de 1901. C'est pourquoi les musulmans aujourd'hui peuvent utiliser ce code pour gérer leur culte. Le pape a refusé cette solution. Cependant, l'Église devient légale malgré elle et jusqu'à l'accord de 1923-1924, ses prêtres occupent les églises sans titre juridique. Il faut insister sur ce point. Les lois de 1905-1908 ne sont pas le couronnement de l'anticléricalisme d'État, mais constituent un changement de paradigme. Briand, avec Clémenceau, mène ce changement. Au final, même les libres penseurs qui, en 1903, lors du combisme, interrompent des messes en s'adressant aux prédicateurs citoyens, changent d'attitude. Alors même que les catholiques refusent la loi de 1905 et le droit commun, les libres penseurs s'abstiennent de toute provocation. Certains d'entre eux agissent même pour permettre à l'Église catholique d'exister légalement. Pas tous, bien sûr, mais un nombre suffisant pour que cela fonctionne. Toute la gauche, à ce moment-là, a privilégié ce que Max Weber appelle l'éthique de responsabilité sur l'éthique de conviction. La loi de 1905, et plus encore les modalités de son application au vu des refus du pape, ne satisfait pas les souhaits de beaucoup d'entre eux. Pourtant, ils ont assumé le choix de la responsabilité politique. Si une telle stratégie s'est montrée efficace, cette situation a fait de l'Église catholique une préoccupation constante, obsédante, pour Briand, pour le gouvernement, les tribunaux. Cela a permis, et ce n'est certes pas rien, de pacifier relativement le conflit des deux France qui prenait de plus en plus d'ampleur. Mais cela s'est effectué, il faut aussi le reconnaître, au détriment d'une égale liberté de conscience et d'une égale liberté religieuse. Concernant la liberté de conscience d'abord, on a multiplié les accommodements envers le catholicisme, parfois en oubliant un peu les libres penseurs. Aujourd'hui encore, contrairement à la Belgique, ceux-ci ne bénéficient pas de l'équivalent des aumôneries pour aider ceux qui veulent réfléchir au sens de la vie en dehors des traditions religieuses. Concernant la liberté religieuse ensuite, certains catholiques voulaient désobéir au pape et créer des associations cultuelles, mais ils n'ont rien obtenu, ni les églises ni les biens. Le paradoxe de la loi de 1905, c'est qu'on a finalement privilégié ceux qui refusaient la loi, ceux qui suivaient Pie X, parce qu'ils se conformaient à l'ajout de l'article 4, resté valable même en l'absence d'associations cultuelles catholiques romaines. Les catholiques qui voulaient créer, en conformité avec la loi, des associations cultuelles se sont heurtés à l'opposition de Briand, de Clémenceau, du Conseil d'État et de l'administration, et ils ont été dépossédés de leurs églises. La loi de 1905, aussi remarquable soit-elle, ne règle pas tous les problèmes. La culture française a été profondément marquée, surdéterminée même, par le conflit dualiste des deux France. La séparation de 1905, au lieu de donner naissance à un véritable culte pluraliste, a été façonnée avant tout pour apaiser ce conflit. Non pas pour le faire disparaître, mais pour le ramener dans les tensions normales d'une démocratie. Ce défi d'habitus pluraliste dans la culture politico-religieuse française présente aujourd'hui un effet boomerang. Voilà un aspect majeur, le plus souvent méconnu. Et donc Jean Bobéro aborde sa conclusion. Actuellement, nous faisons face à une réinterprétation de la laïcité. En 2003, un des leaders de la majorité gouvernementale de l'époque, François Baroin, rédige un rapport pour le Premier ministre. Il en appelle à une nouvelle laïcité, plus cultuelle et identitaire. En schématisant, on peut dire que globalement, cette nouvelle laïcité reprend davantage les peurs et les postures de ceux qui ont perdu en 1905 que de ceux qui ont gagné. En fait, elle prolonge en partie la vision de la laïcité des vaincus de 1905. Pourquoi cette optique défaite alors est-elle devenue dominante aujourd'hui? Parce qu'en 1905, on croyait fortement au progrès. Un progrès qui reliait le progrès technique et scientifique au progrès moral et social par l'action politique. Pour dire les choses vite, la fée électricité, les chemins de fer, la morale laïque et la vitalité démocratique coexistaient. Cette croyance a commencé à se trouver ébranlée par la guerre russo-japonaise, qui a montré que l'arbitrage entre nations dites civilisées ne suffisait pas pour éviter une guerre. À plus forte raison, les deux guerres mondiales ont détruit l'idée d'un progrès indifférencié. On a distingué alors un bon progrès pacifique d'un mauvais progrès guerrier. Aujourd'hui même, cette distinction se trouve mise en doute avec l'ensemble des problèmes liés au changement climatique et à la destruction de la biodiversité. Les discours dominants sont désormais à teneur apocalyptique. Ces discours sur les crises environnementales et les risques que court la planète sont devenus obsédants et font que l'incroyance au progrès prédomine. Dans ce climat, ressurgissent des désirs de pureté, pureté religieuse, c'est le succès du salafisme, mais aussi, faute d'être capable de construire un avenir souhaitable, désir d'une pureté laïque. Le récent roman d'Aurélien Bélanger, le mal nommé « Les derniers jours du Parti socialiste », illustre bien les dérives que peut donner cette quête de pureté laïque. L'enchaînement des lois et de mesures, considérées ensuite comme inefficaces, et bien sûr, elles le sont puisqu'elles ne portent pas sur les racines du problème, va dans le même sens. Dans cette conjecture, deux camps risquent de s'opposer comme des frères ennemis, les partisans d'une pureté laïque combattant les partisans d'une pureté religieuse et inversement, avec une inflation réciproque. Ce processus me semble analogue à celui de l'anticléricalisme autoritaire de Combes. De même qu'au début du XXe siècle, un discours du danger clérical, intégriste, fleurit, mais comme on reste en démocratie, les mesures prises ne peuvent pas être à la hauteur des menaces mises en avant. Alors les gens sont frustrés, demandent des mesures plus fortes qui elles-mêmes échouent, et ainsi de suite. Il faudrait sortir du code démocratique pour empêcher que ceux que l'on exclut par la parole ne reviennent par la fenêtre. C'est un engrenage. En conséquence de cette perspective, la nouvelle laïcité opère un glissement de la liberté de conscience vers la neutralité. Si vous analysez les discours de 1905, le terme central, c'est « liberté de conscience ». Déjà dans les années 1880, avec Jules Ferry, Ferdinand Buisson, et en 1905, Buisson, Jaurès, Briand, Clémenceau, tous insistent. La laïcité, c'est avant tout la liberté de conscience. Briand le dit très clairement dans son rapport. Aujourd'hui, quand on parle de laïcité, un mot revient, neutralité. Laïcité et neutralité sont devenus presque synonymes. Or, la neutralité constituait en 1905 un moyen au service de la liberté de conscience, une neutralité arbitrale qui permettrait à chacun d'exercer librement ses convictions. Aujourd'hui, la neutralité tend à devenir une fin en soi et elle ne s'applique pas de la même manière aux différentes religions. De plus, l'interprétation du mot neutralité change. En 1905, on parlait d'une neutralité de respect. Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'une neutralisation, une privatisation du religieux, cantonnée à l'intime, dans une société où l'intime a presque disparu, en tout cas a beaucoup rétréci son domaine, à cause du numérique, des médias, des moyens techniques nouveaux de surveillance permanente. On sort alors de l'idéal de rationalité qui est au cœur de la pensée laïque et a sans doute permis à l'époque de faire prévaloir l'éthique de responsabilité sur l'éthique de conviction. Ce que Briand appelait une laïcité de sang-froid est remplacé par une laïcité avant tout émotionnelle. Mon collègue Gilles Kepel parle de salafisme d'atmosphère, de djihadisme d'atmosphère. Moi, j'ai proposé le terme de trumpisme d'atmosphère pour désigner cette dérive de la laïcité. Voilà. Et donc, c'était la fin de cette communication de Jean Bobéro devant le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Et je vous donne tout de suite rendez-vous pour une prochaine chronique, lundi prochain, 11h30, toujours sur Radio Libre en Périgord. Bonne semaine.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.